destiné à vous donner la joie dont vous avez besoin. Mais ce matin, avant de commencer, on aime toujours à la vie comblée faire une petite déclaration de la foi, parce que la Bible nous enseigne que qu'est-ce qu'on dit avec la bouche, qu'est-ce qu'on croit de notre cœur, s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé par la puissance de Dieu dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Bon, 1 Pierre chapitre 3, c'est notre texte clé pour la série qu'on a commencé il y a déjà 6 semaines. Et on va probablement faire une semaine ou deux de plus sur ce sujet, parce que c'est un sujet important. Premièrement, parce que Dieu veut qu'on soit heureux, parce qu'il nous aime, et il veut qu'on soit bien dans notre peau, mais au même temps, il veut que notre entourage soit touché par notre témoignage. Et plus l'Église de Jésus-Christ est heureuse, plus nous sommes en train de marcher dans la joie, plus nous démontrons la vie de Dieu et la réalité de Jésus dans notre vie, plus les gens qui nous entourent vont vouloir connaître Jésus, n'est-ce pas vrai? Combien de vous pensez que les gens vont vouloir connaître un Dieu dont tout son peuple est triste et accablé et ils ont à peine l'énergie pour vivre de jour en jour? Non, c'est pas ça qui va attirer les gens. C'est quand ils vont voir la vie de Dieu, quand ils vont voir que le monde de l'Église est en train de marcher dans les bénédictions de Dieu, de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière, et de voir la joie de Dieu manifestée dans leur vie quotidienne, c'est là où on va voir les gens commencer à poser des questions. Donc, regardons bien. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. Voici notre texte clé. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et voir des jours heureux. Combien de vous voulez voir des jours heureux? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On a déjà parlé de cela. L'importance que de garder notre langue et de savoir comment bien parler. Parce que la parole de Dieu est claire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et avec nos paroles, on peut former notre monde ou on peut détruire notre monde. Et c'est un fait qu'on a étudié il y a quelques semaines. Mais il continue, il dit, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Donc la semaine passée, on a parlé de ça. L'importance de s'éloigner du mal. Que si on veut être heureux, on ne peut pas, sur une base régulière, on ne peut pas vivre dans le péché volontairement, on ne peut pas continuer à faire les choses qui ne sont pas correctes et être heureux. On a vu plusieurs raisons pour cela. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage fortement à aller sur notre site web www.lavicomblée.com et tous les messages sont là sur le site. Vous pouvez écouter cela gratuitement. Mais laisse-moi vous dire une chose, que si on veut être heureux, il faut suivre la recette de Dieu. Comme j'ai dit, si on veut faire un gâteau, il faut suivre la recette. Si on veut réussir dans la vie, il faut suivre la recette que Dieu a établie pour réussir. Et Dieu a donné les instructions assez précisées pour savoir comment vivre à tous les jours de notre vie. Ainsi, comme on a vu, il faut préserver sa langue du mal, il faut s'éloigner du mal, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Il faut faire le bien. Donc, combien de vous voulez faire le bien dans votre vie? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a vu? Juste pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Souvent, on a des personnes, quand on entend un message sur l'importance de s'éloigner du mal, ils commencent à être un peu nerveux au début parce que ils savent qu'ils ont des luttes dans leur vie. Ils ont des habitudes peut-être qui sont dures à rompre. Ils sont accrochés à certaines choses. Donc, quand on parle de s'éloigner du mal, des fois, les personnes sont comme, « Ah, je ne sais pas comment! » Et comme on a dit la semaine passée, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct et ils savent dans leur cœur que c'est pas correct. Donc, ils vont prendre comme stratégie le suivant. Ils vont faire, ah, mais là, je vais m'éloigner. Je veux plus faire cela. Je veux plus faire cela. Je veux plus faire cela. Mais, vous savez, plus ils essaient de s'éloigner du mal, plus ils sont concentrés sur le mal. Leurs yeux sont fixés sur la mauvaise habitude ou le péché qu'ils veulent rompre dans leur vie. Donc, ils sont fixés là-dessus. Toute leur énergie est focussée, on pourrait dire, sur le problème. Ils regardent le problème et ils disent, « Je veux pas. » Et puis, ils cèdent encore. Combien de vous savez de quoi je parle? Hein? Je veux plus crier après mon épouse. Je veux plus crier après mon épouse. Oh, je vais être patient cette fois-ci. Et puis, on crie quand même. Je veux plus toucher à la drogue. Ah, mais la drogue est... Tu comprends? On veut plus, mais on est tellement concentré sur le problème qu'on est, en fait, on est en train de empirer la situation. Moi, j'ai découvert une chose. La meilleure façon de combattre les ténèbres, c'est de faire quoi? C'est d'ouvrir la lumière, n'est-ce pas? Parce que si on ouvre la lumière, les ténèbres vont disparaître, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? C'est qu'au lieu de concentrer sur le mal que tu ne veux pas faire, la meilleure chose à faire, c'est de concentrer sur le bien que vous voulez faire. Et si vous êtes concentré sur Dieu et sur sa présence et sur son plan pour votre vie, et en fait, c'est ça qu'on appelle ça la repentance, n'est-ce pas? La Bible dit « Repentez-vous ». La repentance, c'est de tourner de bord, de changer de direction. Autrefois, j'étais concentré sur la mauvaise chose dans ma vie que je ne voulais plus faire. Mais si je me repens, je tourne de bord, je vais « Ah, mais Dieu, tu as un plan pour ma vie. Tu veux que je fasse quelque chose de bien. Tu as des choses que tu as préparées pour moi, même avant la fondation du monde. » Et plus je m'approche de Dieu, automatiquement, je suis en train de m'éloigner du mal. Ça, c'est la meilleure stratégie à suivre. Si on veut vraiment s'éloigner d'une mauvaise habitude, si on veut se débarrasser d'un problème, c'est pas dire, hein, je ne vais pas consommer cela, je ne vais pas consommer cela. Tu vas dire à la place, Seigneur, je vais être rempli de toi. Comme Rachel a partagé, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez rempli du Saint-Esprit. Donc, si je suis rempli de l'Esprit et rempli de Dieu, il ne reste plus de place pour mettre des autres choses. Amen? Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui, l'importance de faire le bien. Donc, regardons, il y a un verset en Éphésiens chapitre 2. Ça commence, qu'est-ce qu'on va lire? On va commencer à verset 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Alléluia. Combien de vous voulez vraiment faire le bien au lieu de faire le mal dans votre vie? Vous êtes tannés de faire les choses que vous ne voulez pas faire. Et qu'est-ce qu'on va voir, c'est que Dieu nous donne la capacité de faire le bien. Éphésiens 2, verset 4 dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde... » Combien de vous savez que notre Père est riche? Il est riche en tout, mais surtout en miséricorde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. Et vous? Je suis content de savoir que Dieu ne me traite pas selon mes péchés, mais il me traite selon sa grâce et sa miséricorde, n'est-ce pas? Et que c'est une bonne nouvelle. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Je veux que vous souligniez le mot « étions ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes encore morts, que nous sommes encore des pécheurs, mais qu'est-ce qu'on va voir, c'est que nous étions les pécheurs, nous étions morts, mais maintenant, aujourd'hui, grâce à Jésus, nous sommes en vie spirituellement et nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis plus un pécheur. Je peux pécher si je ne fais pas attention, je peux quand même tomber et faire des choses qui ne sont pas correctes, mais ma nature est maintenant changée. Je ne suis plus pécheur de nature. Je suis la justice de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour qu'on puisse devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Et en fait, en Romains, chapitre 5, verset 17, dit qu'on peut régner dans la vie par le don de la justice. La justice est un don que Dieu nous a fait par sa miséricorde et sa grâce. À cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Combien de vous êtes contents d'être sauvés? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comme on dit, c'est par la grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous voyons trois choses bien importantes dans ce passage. La première chose que nous voyons, c'est dans vos notes, c'est que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes sur la planète Terre aujourd'hui qui croient que c'est les bonnes œuvres qui vont leur donner accès au ciel. Ils pensent qu'ils peuvent gagner le ciel, ils peuvent gagner la vie éternelle et que s'ils sont assez fins, gentils, s'ils font pas trop de mauvaises choses, beaucoup de personnes, combien de vous avez eu dans le passé la conviction ou l'idée que après la mort, que vous serez face à face avec Dieu et pour le jugement, que Dieu allait prendre vos bonnes œuvres dans une balance et puis allait mettre tes mauvaises œuvres, les péchés de votre vie et si jamais vous faisiez un peu plus de bien que de mal, que là vous aurez accès au ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé comme ça avant? Ou je suis le seul? Moi, autrefois, avant, heureusement, c'était quand j'étais très, très jeune, j'avais ce genre d'idée. Je pensais que plus je faisais du bien, plus j'aurais la chance d'arriver au ciel un jour. Mais ça, c'est pas du tout biblique. La Bible est claire là-dessus qu'il n'y a aucune personne sur la planète Terre qui est digne d'aller au ciel. Il n'y a personne. On peut prendre la personne qui, selon nos yeux, c'est la personne la plus pure et pieuse et la personne la plus sympathique et gentille, quelqu'un qui aide toujours grand-maman à traverser la rue, la personne qui mange jamais, la personne qui est toujours agréable. Et même cette personne-là, la Bible nous enseigne, est née avec une nature pécheresse. En fait, regardons dans vos notes, Galates chapitre 2, verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Soulignez cela, justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Combien de fois j'ai parlé avec des gens et j'ai posé la question, si vous trouverez la mort aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance d'aller au ciel? Combien de fois les gens disent, mais je ne vois pas, pourquoi pas? Je n'ai pas fait grand chose dans ma vie, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci. Mais selon la parole de Dieu, regarde le prochain verset dans vos notes, Romains chapitre 3, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit là? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle de faire le bien, mais la première chose qu'il faut souligner, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes dans l'impossibilité de faire le bien comme Dieu veut qu'on fasse le bien avant de connaître Jésus-Christ. Et si on compte sur nos bonnes œuvres pour nous ouvrir la porte au ciel, qu'on se trompe et qu'on est vraiment dans l'erreur, on est dans le champ. N'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. C'est bien important de savoir cela. Parce que dans le monde religieux aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre l'accent sur les œuvres. Il faut aller à la messe, il faut prier tant de fois par jour, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et si vous faites la bonne chose, là, vous allez avoir l'assurance peut-être d'avoir accès au ciel. Mais la Bible est claire que vous pouvez faire toutes les bonnes choses que vous voulez. Et c'est pas par les œuvres de la loi que vous serez justifié. C'est uniquement et seulement par la foi en Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui a vécu sur la planète qui était assez pure et assez bon. Et ça, c'est Jésus. Amen? Et il faut, par la foi, recevoir sa justice. Et quand sa justice est reçue par la foi, ce don de justice nous rend capables de passer l'éternité avec Dieu. Amen? Donc, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Mais deuxième chose dans vos notes, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Amen? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On n'est pas sauvés par les bonnes œuvres. Il n'y a rien que je peux faire pour me rendre assez juste devant Dieu. Il n'y a rien que je peux faire pour effacer mes péchés. C'est seulement le sang précieux de Jésus qui peut effacer mes péchés. Mais une fois que je donne ma vie à Jésus, il faut que je réalise une chose, que Jésus m'a sauvé parce qu'il m'aime et il veut que je passe l'éternité avec lui, mais il m'a sauvé aussi pour des bonnes œuvres. Il y a des bonnes choses que Dieu veut que je fasse. Il y a des bonnes choses que Dieu veut que vous fassiez. Et vous ne serez jamais heureux dans la vie à moins d'être engagé à ces bonnes œuvres, à moins d'être en train de faire ces bonnes œuvres qui sont dans le plan de Dieu pour votre vie. Amen? Donc, vraiment, une clé importante pour votre bonheur, c'est de réaliser que Dieu m'a créé et m'a sauvé pour les bonnes œuvres. Comment on dit, je suis sauvé pour les bonnes œuvres. Alléluia! Et c'est bien important. Regardons, il y a plusieurs versets à voir là-dessus. Tite, chapitre 2, verset 13, dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. » Savez-vous quoi? Votre vie ne vous appartient plus si vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a acheté. N'est-ce pas? Alléluia! Et si Jésus vous a acheté, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Quelqu'un qui va aller chez le concessionnaire Ford et qui va acheter une auto. OK? Imaginez, mettez-vous dans cette histoire. Vous allez, vous avez épargné longtemps et finalement vous êtes en position d'acheter une auto. Donc, vous allez vous donner l'argent ou vous signez un contrat pour faire les paiements ou vous faites quelque chose. Mais l'auto est à vous. Vous avez payé pour l'auto. C'est votre auto, n'est-ce pas? Donc, une fois que l'auto est à vous, c'est qui décide qu'est-ce que vous allez faire avec l'auto? Est-ce que c'est votre voisin? Est-ce que c'est le voisin qui arrive et dit, « Bon, mais désolé, mais tu n'auras pas de char aujourd'hui parce que j'ai besoin d'aller jouer au golf quelque part. » Donc, on voit. Est-ce que ça marche de même? Non, c'est le propriétaire de l'auto qui a le droit de dire qu'est-ce que l'auto va faire dans la journée, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que même le concessionnaire, le vendeur qui vous a vendu l'auto, est-ce qu'il peut arriver chez vous en disant, « Désolé, vous n'aurez pas de char pour la prochaine semaine parce que mon épouse et moi, on a le goût d'aller en Floride et puis on va aller prendre une vacance, on est vraiment fatigué, donc désolé, mais de toute façon, c'est moi qui vous a donné le char. » Est-ce que ça marche comme ça? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, « Désolé, mais l'auto m'appartient, n'est-ce pas? » Et c'est exactement la même chose dans la vie chrétienne. Dieu vous a acheté avec le sang précieux de Jésus. C'est-à-dire que Dieu a le droit de dire, aujourd'hui, vous allez faire telle chose. On n'a pas le droit de dire à Dieu, désolé Seigneur, mais aujourd'hui, tu n'auras pas du corps de Ken Taylor. Je peux pas arriver, mais écoute Dieu, de toute façon, c'est moi qui, je t'ai donné mon corps. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de faire autre chose. Donc, compense sur moi pour quoi que ce soit, parce que je suis occupé aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Combien de fois est-ce qu'on fait ça avec le Seigneur? Le Seigneur ne demande pas qu'on fasse quelque chose aujourd'hui parce que j'ai déjà planifié de quoi à faire avec ce corps, avec ce temple du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est déjà booké pour toute la semaine, c'est déjà booké pour tout le mois. Et Dieu est en train de dire, attention, c'est moi qui a le vignette, n'est-ce pas? C'est moi qui a acheté, c'est moi qui a payé pour ton corps et pour ton âme et pour ton esprit, ta vie m'appartient, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia! Alléluia! C'est des bonnes choses à penser, n'est-ce pas? Mais regarde qu'est-ce qu'il dit dans ce verset. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et quoi? Zélé pour quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Donc vous voyez, au lieu de dire « Désolé Dieu, mais tu n'auras pas accès au temple du Saint-Esprit pour les prochaines heures, la prochaine journée, le prochain mois, parce que c'est déjà booké », on devrait au contraire se présenter devant Dieu à chaque matin en disant « Père, c'est toi qui es le maître de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui m'as acheté avec ton propre sang. Je t'appartiens. Mon temps t'appartient. Mes talents t'appartiennent. Mon trésor t'appartient. Et même mon temple t'appartient. Le quartier de la vie. De la vie, pardon. La TV, non. C'est le quartier de la vie, c'est notre temps, nos talents, notre trésor et notre temple, n'est-ce pas? Et on se présente devant Dieu en disant, Seigneur, me voici, je suis zélé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton corps aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton enfant aujourd'hui? Je t'appartiens. Laisse-moi vous dire, ça c'est la clé du bonheur. Notre temps, notre talent, notre trésor et notre temple. Les quatre T. Mais est-ce que vous êtes en train d'écouter comme faux ce matin? J'ai dit que ça c'est la clé du bonheur. Et beaucoup de chrétiens ont l'impression que ça va être le contraire. Que si je me présente à Dieu et je dis, Seigneur, tu peux faire avec moi tout ce que tu veux faire. Prends mon temps, prends mon trésor, prends mes talents, prends mon temple, fais qu'est-ce que tu veux avec. On a peur de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. On pense que si on fait cela, on va perdre le contrôle. Et qu'on va manquer quelque chose. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'avais peur de vivre à 100% pour Jésus parce que j'étais convaincu que si je donne ma vie vraiment à Dieu, que j'allais manquer quelque chose. Il y avait un plaisir en quelque part, du fun en quelque part que j'allais pas expérimenter si je donnerais ma vie à 100% à Dieu. Et ça, c'était le pire des mensonges que j'ai jamais cru. Regardez-moi, les jeunes, s'il y a des jeunes dans la salle aujourd'hui, laisse-moi vous dire, voulez-vous avoir du fun? Voulez-vous avoir du plaisir? Voulez-vous avoir une vie heureuse? Donnez votre vie à Dieu. Gardez ça pas pour vous-même. Alléluia. Mais donne ça à lui et soyez zélés pour les bonnes œuvres que Dieu a pour vous. C'est ça que j'aime tellement dans ce verset. Un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Une fois que j'ai donné ma vie à 100% à Jésus, j'avais seulement 16 ans, presque 17 ans. Laisse-moi vous dire, ma vie était transformée. Je suis rentré à l'école secondaire en feu pour Dieu. Et on a commencé à partager la bonne nouvelle avec les autres. Et ma vie était tellement, tellement merveilleuse. Je regrette pas du tout. La seule chose que je regrette, c'est que j'ai gaspillé un couple d'années de l'école secondaire au début. Mais là, après avoir donné ma vie à 100% à Dieu, on a eu des réveils, on a eu des fun. À chaque lundi soir, chez moi, on invitait les ados. C'était pas organisé par l'église, mais c'était juste, moi, je voulais partager la parole, les choses avec les, et à chaque lundi soir, on avait jusqu'à 35 jeunes qui venaient dans notre salon, et on louait le Seigneur, et on étudiait la Bible. On parle des jeunes de 15, 16, 17 ans qui sont là parce qu'ils sont zélés pour Dieu, parce qu'ils veulent connaître Dieu, parce qu'ils savent que c'est ça leur raison d'être. Amen. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Oh, laisse-moi vous dire, j'ai aucun regret d'avoir donné ma vie à Jésus. Et vous? Alléluia. Donc, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Mais regarde la troisième chose dans ce verset qu'on voit. Verset 10 dit que nous sommes son ouvrage. Et on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu a préparé ses œuvres pour nous avant la fondation du monde. Et ça, c'est merveilleux de savoir que avant que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il savait que Marcel serait là. Il savait que René Turini serait là. Il savait que Michael Ouellet serait là et Sylvain. Il savait que chacun de vous serez là. Et avant qu'il a dit que la lumière soit, il avait déjà un plan. Il avait déjà en vue des bonnes œuvres pour chacun de vous. Sans exception. Savez-vous qu'il n'y a pas une personne ici présente qui n'est pas destinée à faire des bonnes choses pour Dieu? Pas juste pour Dieu, mais avec Dieu. Et vous ne serez jamais heureux dans la vie. Voulez-vous voir les jours heureux? Aimer la vie, voir les jours heureux, vous ne serez jamais content, jamais satisfait, à moins d'être en train de faire, pas juste des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Vous pouvez gaspiller votre temps en essayant de faire des bonnes choses, juste selon votre propre plan. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va formuler nos plans, on va dire, « Oh Seigneur, j'ai une bonne idée, on va faire ça, ça, ça. Seigneur, bénis mon plan, bénis mon plan. » Mais qu'est-ce qui est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de dire, « Seigneur, tu as déjà un plan qui est déjà béni. Attaché à ton plan, il y a toutes les ressources dont j'aurai besoin. Tout l'argent, toutes les personnes, tout le temps dont j'aurai besoin. Tout est déjà béni. Donc, Seigneur, au lieu d'établir mon propre plan et te demander de le bénir, montre-moi ton plan. Donne-moi ton plan. Je suis zélé pour faire ton plan. Amen. Combien de vous voulez trouver le plan de Dieu? Alléluia. Psaume 139 dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Avant qu'aucun de vos jours existait, Dieu avait déjà un plan. Demandez Dieu un plan. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Deuxième page de vos notes. Est-ce que ça vous intéresse, je m'excuse, de savoir comment faire le bien, comment faire ces bonnes œuvres? En fait, juste retournez à la première page une minute. Il y a une chose que je voulais souligner. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Souligne le mot « vos ». Ce n'est pas juste les bonnes œuvres, mais afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est personnel, n'est-ce pas? Savez-vous qu'il y a des bonnes œuvres qui sont réservées pour vous à faire? Et que si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande à faire, sûrement, Dieu est capable de trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer, parce que son plan va être accompli si on coopère avec lui ou non. Mais ça serait moins efficace, ça serait moins bon. Moi, j'ai deux mains. Et je peux, avec juste une seule main, je peux faire beaucoup de choses. Mais je peux faire beaucoup plus avec deux mains. Vous êtes d'accord? Si je n'ai qu'une seule main, la main gauche est disparue, je peux quand même compenser avec ma main droite, et je peux m'occuper de toutes sortes d'affaires, mais laisse-moi vous dire que je vais être moins efficace que si j'avais les deux mains, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a certaines choses que ma main gauche doit faire. Il y a d'autres choses que ma main droite doit faire. Si je joue au baseball, le gant va aller là, sur la main gauche. Je pourrais essayer, si je n'avais pas la main gauche, à jouer au baseball, mettre un gant sur la main droite, mais ça ne serait pas confortable parce que ça ne marcherait pas très bien pour moi parce que moi, je lance avec la main droite. Donc, si je suis obligé d'avoir un gant sur la main droite, j'attrape la balle, puis qu'est-ce que je fais? Il faut enlever le gant, prendre la balle, lancer, remettre le gant. C'est faisable. Mais combien de vous savez que ça ne serait pas tellement efficace? Donc, il y a des œuvres que ma main droite est destinée à faire. Il y a des œuvres que ma main gauche est destinée à faire. Et dans le corps de Christ, c'est comme ça. Que votre lumière luise, afin que les gens voient vos bonnes œuvres. Vous avez des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour vous. Et si vous ne faites pas ce que vous êtes supposé de faire, nous allons souffrir. Nous allons quand même faire ce qu'il faut faire. On ne va pas lâcher. On ne va pas dire juste parce que il y a telle personne qui ne voulait pas coopérer, on va juste tout arrêter. Non, on va continuer. Il y a plusieurs personnes qui vont essayer des fois de jouer le rôle de deux personnes, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est que chacun de nous, on prenne notre place. On dit, Seigneur, tu m'as acheté, je t'appartiens, tu as déjà un plan pour ma vie. Il y a des œuvres qui m'appartiennent dans un sens, que tu m'as confié, et ce sont mes œuvres que je veux accomplir. Amen. Alléluia. Donc, page 2 de vos notes. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut faire nos œuvres? Numéro 1. Accepter la responsabilité de faire le bien. On parle de comment avoir une vie heureuse. Il faut s'éloigner du mal. Il faut faire le bien. Mais pour faire le bien, premièrement, il faut accepter la responsabilité. Savez-vous que ce n'est pas juste un privilège de faire des bonnes œuvres, c'est une responsabilité. Amen. Parce que si la main gauche refuse de jouer, la main droite va être pénalisée, n'est-ce pas? Et si vous refusez de jouer votre rôle, tout le corps de Christ va être pénalisé. Imaginez, vous savez qu'aujourd'hui dans notre monde, on a certaines exigences par rapport à nos enfants. On a, j'ai vu Joanne Guilbeault ici quelque part, elle travaille au CLC, et je sais qu'elle est au courant que c'est obligatoire même pour les parents de donner les piqûres, les vaccins à leurs enfants, n'est-ce pas? Et si on ne le fait pas et un enfant tombe malade, mais le gouvernement peut dire que vous avez négligé votre enfant. Si vous savez que c'est une bonne chose à faire, mais vous ne le faites pas, vous refusez carrément de faire qu'est-ce que vous savez, une bonne chose, là, on va avoir des troubles, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose. Il y a un verset de la parole. Regardons cela. En Jacques, chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, il faut prendre la responsabilité de savoir qu'il y a des choses que Dieu veut que je fasse. Et si je sais que Dieu veut que je le fasse, mais je refuse de le faire, ça c'est un péché. Parce que Dieu m'a confié ses dons. Il m'a confié ses capacités. Il m'a donné une mission. Et il faut que j'accomplisse ma mission dans la vie. Si je refuse de le faire, il y a des gens qui vont souffrir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Tite 3:8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer, souligner cette phrase, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vois-tu, on voit dans ce verset l'importance de s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Il faut s'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. J'ai une responsabilité. Quand je me lève le matin, Seigneur, tu m'as créé pour des bonnes œuvres que tu as préparé avant la fondation du monde, et je veux m'appliquer à faire ces choses aujourd'hui. C'est une chose quotidienne. À tous les jours, on se présente devant lui et on s'applique à pratiquer les bonnes œuvres. Amen. Numéro 2. Deuxième chose qu'on peut faire si on veut faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Grandissez dans votre connaissance de Dieu. Je peux vous dire une chose, c'est que plus vous connaissez Dieu, plus ça serait facile de faire les bonnes œuvres. Et pas juste les bonnes œuvres, mais vos bonnes œuvres. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas son plan, vous ne connaissez pas sa volonté, comment est-ce que vous allez réussir à faire les bonnes œuvres que Dieu a destinées pour vous? Il faut connaître Dieu. Dieu, premièrement, on sait que, comme encore Rachel a partagé, Dieu est quoi selon la Bible? Dieu est amour. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, commencez en lisant la parole de Dieu, parce que dans la parole, vous allez connaître Dieu. Et vous allez découvrir que Dieu est amour. Donc, si vous ne savez pas par où est-ce que je dois commencer pour faire le bien, commence en marchant dans l'amour. Plus j'aime Dieu et plus j'aime les autres dans mon entourage, plus je vais être en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un grand mystère. Ça ne prend pas un scientifique pour découvrir vos bonnes œuvres. Ça prend une connaissance de Dieu. Et Dieu est votre Père. Dieu est une personne, ce n'est pas une force impersonnelle, mais Dieu est vivant. Amen. Mais regarde bien qu'est-ce que Dieu a dit en Jérémie 4, 22. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Pourquoi? Savez-vous que quand vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes fou? Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Moi, je ne veux pas être compté parmi eux. Hein? Dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Connaissez-vous des personnes qui sont habiles pour faire le mal? Moi, je ne veux pas avoir ces habilités-là. Mais regarde bien, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas
faire le bien. Combien de chrétiens sont dans cette catégorie de personnes? Ils sont très habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Mais pourquoi? Le début du verset, ils sont fous. Pourquoi? Ils ne me connaissent pas. Donc, si, en fait, la Bible dit, mon peuple périsse, faute de connaissance. Il faut connaître Dieu. Et pas juste connaître Dieu d'une façon intellectuelle, mais il faut avoir une relation intime avec Dieu. Il faut connaître sa voix. Il faut connaître sa parole. Il faut connaître la façon que Dieu pense et dire, oh, mais on peut pas. Oui, on peut. Parce que Dieu nous a révélé. En fait, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et si je sais comment Dieu pense, je sais c'est quoi sa volonté, je connais son plan pour ma vie, là, c'est facile de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi. Parce que je connais Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Regardons. Ça, c'est un de mes versets préférés de toute la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de quoi? Plus fort, s'il vous plaît. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, de lui être entièrement agréable, portant des fruits en quoi? En toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par quoi? La connaissance de Dieu. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre connaître Dieu et faire les bonnes œuvres. Plus je connais Dieu, plus je vais porter du fruit dans les bonnes œuvres. Amen. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut connaître le cœur de Dieu. Quand on connaît le cœur de Dieu, et on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on n'a pas besoin de jeûner et prier pendant 5 jours pour savoir quoi faire. On sait tout de suite, la personne est dans le besoin, j'ai les moyens pour l'aider, je vais l'aider. À moins que le Seigneur dise non, je l'aide. Parce que c'est son cœur, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'interroger Dieu à chaque jour pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux faire la volonté de Dieu parce que je connais Dieu. Alléluia. Nous avons certains règlements à la maison. Chez nous, après un repas, les enfants ne sont pas supposés de laisser les assiettes sur la table. Si quelqu'un utilise une assiette, un verre pendant la journée, c'est jamais laissé sur le comptoir. Jamais. On l'utilise et soit on met ça dans la lave-vaisselle, si la lave-vaisselle est pleine et tu ne veux pas prendre la peine de décharger, tu laves ce que tu viens d'utiliser et c'est fini. OK? Alors, mes enfants n'ont pas besoin de venir à chaque repas et dire, qu'est-ce que je fais, papa? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec la vaisselle aujourd'hui? Ils savent. Et souvent, ils vont faire semblant qu'ils ont oublié. Mais ils n'ont pas oublié, ils savent. C'est la même chose, des fois. C'est ça, mais je veux que vous ayez cette image. Ils n'ont pas besoin de faire une conférence à chaque jour. OK, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fait aujourd'hui avec la vaisselle? Aujourd'hui, est-ce que c'est ta volonté qu'on laisse toute la vaisselle sur le comptoir? C'est ça que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux qu'on lave à moitié la vaisselle et on laisse la balance sur le comptoir aujourd'hui? C'est quoi ta volonté? Ils n'ont pas besoin de demander. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils me connaissent. Et j'ai fait connaître ma volonté. N'est-ce pas? Et gloire à Dieu, c'est la même chose dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on n'a pas besoin à chaque jour, forcément, de dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je marche dans l'amour avec mon épouse aujourd'hui? Ou est-ce que c'est aujourd'hui que tu veux que je crie après elle et que je la chicane? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est la journée de la chicane? Ou est-ce que c'est la journée d'amour? On n'a pas besoin de poser la question. C'est toujours la journée de l'amour en Dieu. Amen. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, est-ce que c'est la journée d'être tempérant ou est-ce que je peux aller prendre quelques coups aujourd'hui? C'est quoi ta volonté aujourd'hui? Veux-tu que j'aille Je peux aller me gêner aujourd'hui, c'est ça que tu veux? Non. On connaît Dieu, on n'a pas besoin de demander. On fait le bien parce qu'on connaît Dieu. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Donc, la connaissance de Dieu nous donne la capacité de faire le bien sur une base régulière. Et ce n'est pas compliqué. On connaît Dieu, on connaît sa parole, on connaît sa volonté. Je suis rempli de la connaissance de sa volonté et je fais qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Amen. Et merci Seigneur. Je parle d'un Dieu qui est un Dieu d'ordre, mais aussi un Dieu d'amour et de compassion et de miséricorde. Si jamais on se trompe, si jamais on tombe, il n'est pas là pour nous battre sur la, avec un verge, il n'est pas là pour nous taper sur la tête ou envoyer un éclair pour nous tuer. Il est là pour nous relever, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut connaître Dieu. Numéro 3, suivez l'exemple de Jésus. Vous voulez faire le bien? Vous ne savez pas par où commencer? Suivez l'exemple de Jésus, tout simplement. Regarde bien. 3 Jean 1, 11 dit, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas, quoi? Vu Dieu. » J'aime ça. Et tu peux souligner le mot « imite ». Il faut imiter, pas le mal, mais imiter le bien. Savez-vous, tantôt j'avais mes deux petits et ils étaient en train de dessiner dans mon bureau. Et un a dit, « Oh, mais là, tu es en train de me copier. » Et je dis, « Mais cool, si elle est en train de te copier, c'est parce qu'elle aime ce que tu fais. Elle pense que c'était bien fait et elle veut être comme toi. » C'est pas négatif, c'est positif, n'est-ce pas? Si on veut vraiment flatter quelqu'un, on va copier, n'est-ce pas? C'est peut-être pas une bonne idée, toujours, mais par nature. Des fois, on a une tendance. Je parlais avec quelqu'un de cela l'autre jour. On a une tendance. Moi, quand je suis venu au Seigneur et quand j'ai vraiment donné ma... Mais j'étais né de nouveau à 10 ans, mais quand j'étais baptisé du Saint-Esprit à 16 ans et je commençais à prêcher les mêmes à 17 ans, j'avais certaines personnes dans ma vie un mentor pour moi, qui passait du temps avec moi aussi et qui était quelqu'un qui a investi beaucoup dans ma vie. Et veut pas, quand je prêchais, les personnes souvent disaient, hey, « Mais là, quand tu parles comme Gary. » OK, mais j'avais les mêmes expressions, j'avais les mêmes façons de gesticuler des fois, la même intonation de ma voix. C'était pas par exprès, mais c'est parce que je le connaissais et puis juste, par hasard, j'imitais qu'est-ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est plus le cas. Mais au début, surtout, c'était comme ça. Mais moi, je pensais pas méchant de trouver un exemple à suivre. Et le meilleur exemple à suivre, c'est qui? C'est Jésus. En fait, Éphésiens chapitre 5, regardons ceci. On parle de comment faire le bien. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu. Tel le Père, tel le Fils. Papa parle comme ça, moi aussi je veux parler comme ça. Papa s'habille comme ça, moi aussi je veux m'habiller comme ça. Je veux marcher dans les souliers de papa. Je veux faire comme mon Père au ciel fait. Et comment est-ce que je peux faire comme lui? Il y a quelque chose d'important. On sait que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils qui s'est fait chair et qui est devenu un homme, n'est-ce pas? Et que comme Jésus, quand il était sur la terre pendant son ministère terrestre, il a dit, tout ce que tu vois chez moi, toutes les paroles que je dis, c'est là-bas. Je ne dis rien à moins que je l'entends chez mon Père. Je ne fais rien à moins que je le vois chez le Père, n'est-ce pas? Donc on sait que Jésus-Christ, c'est le reflet à 100% du Père. Tout ce qu'on voit en Jésus, on voit le Père. C'est l'image du Père. Donc, si c'est le cas, nous aussi, on devrait avoir l'image de Jésus, devrait être notre modèle. Qu'est-ce qu'on voit chez Jésus? On fait la même chose. C'est pourquoi vous avez sûrement vu les WWJD bracelets. Est-ce que vous avez vu ça? En anglais, c'est « What would Jesus do? » Que ferait Jésus à ma place? Donc, ça, c'est une des meilleures choses à faire. On est dans une situation... Et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Que ferait Jésus à ma place? Et si Jésus ne ferait pas ça, fais-le pas. sûr et certain, comme on a dit, Jésus ne va pas aller prendre un coup. Jésus ne va pas crier après son épouse. Jésus ne va pas faire des choses qui ne sont pas correctes. Jésus, au contraire, va faire le bien. Il va, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Ça, c'est important. Tout le monde dit le Saint-Esprit et la force. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, si moi, je veux faire le bien, il faut que je suive l'exemple de Jésus. Et le premier exemple à suivre, c'est d'avoir le Saint-Esprit sur moi. Je ne veux pas essayer de faire le bien sans avoir la puissance de l'Esprit-Saint. Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, et c'est ensuite qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus n'a fait aucun miracle avant d'être baptisé par son cousin Jean et avant de voir l'Esprit descendre sur lui. Amen. Donc, si je veux suivre l'exemple de Jésus, il faut que je sois rempli de l'Esprit-Saint. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de qui? De Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, si je veux faire le bien, il faut que je sois un imitateur de Dieu et que je suive Jésus. Je marche dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. Rien de plus important que de marcher dans l'amour. Tout le monde dit, je marche dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Numéro 4. Utilisez toutes vos ressources pour la gloire de Dieu. Voulez-vous faire le bien? Utilisez toutes vos ressources. On a déjà parlé des 4 T. Quels sont les 4 T? Notre temps, nos talents, notre trésor et notre temple. On va le dire encore. Notre temps, nos talents, notre trésor et notre temple. J'utilise tout ce que j'ai et tout ce que je suis pour la gloire de Dieu. Regardons 1 Pierre 2:12. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions, soulignez ce mot, les bonnes actions, leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Ça, c'est un bon steak là que j'aimerais vous suggérer d'aller manger ça à la maison cette semaine, digérer ça comme il faut, méditer ce verset. Les gens vont examiner de plus près votre vie. Ils veulent voir que vous avez une vie correcte. Ils veulent voir que vous avez des bonnes actions. Et ces bonnes actions vont les ouvrir les yeux. Posez-vous la question, quand les gens examinent ma vie, et peu ou pas, les gens vont examiner votre vie. Ils disent, oh non, je ne veux pas. Surtout si vous vous dites chrétien, les gens vont examiner votre vie, vous serez sous la loupe, ils vont vouloir trouver des petites bibites, n'est-ce pas? Oh, et toi, tu te dis chrétien, mais regarde ça. N'aie pas peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est être rempli de l'Esprit, rempli de la parole, aimer Dieu. Et on ne prêche pas nous-mêmes, on prêche Jésus-Christ, premièrement. On n'est pas parfait, mais on vise la perfection, n'est-ce pas? Et on n'a pas honte de dire que Dieu est à l'œuvre en nous et celui qui a commencé en moi une bonne œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite. Mais quand même, il y a un équilibre. Il y a des personnes qui disent, mais les chrétiens ne sont pas parfaits, juste pardonner. Ça donne l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, et on est juste pardonné. On va être pardonné demain après avoir fait encore plus de gaffe. Non, c'est pas ça. On vise Dieu, n'est-ce pas? On se répand du péché. On ne fait plus le mal qu'on faisait avant. On s'approche de Dieu et en s'approchant de lui, on s'éloigne du mal. Et si jamais en route on tombe, on se répand et on confesse nos péchés. On dit, Seigneur, aide-nous à continuer. Amen. Alléluia. Juste un couple d'autres points que je veux faire. 2 Corinthiens 9:8, on parle de donner nos ressources pour la gloire de Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tout le monde dit toute bonne œuvre. Vous savez encore, Dieu veut faire de vous une personne qui utilise toutes ses ressources pour sa gloire. Soit que vous mangiez, la Bible dit, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, si vous ne le faites pas pour la gloire de Dieu, vous ne devrez pas le faire. Parce que votre vie lui appartient. Donc là, on voit notre temps, nos talents, notre trésor, comme il dit, on va avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins avec un superflu pour participer à tout bonheur. Savez-vous que Dieu a un plan pour votre temps? Dieu a un plan pour vos talents. Vous n'êtes pas doué pour rien. Vous êtes doué pour servir. Dieu a un plan pour votre trésor. Savez-vous que Dieu a un plan pour vos sous? C'est là où beaucoup de gens ont peur. Oh, oui, mais je... Seigneur, tu peux avoir tout ce que je suis, tout ce que j'ai, mais je garde la portefeuille, là. Ça, c'est à moi. Prends pas ça. Mais c'est ridicule. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Il veut faire un compte joint avec vous. Conjoint, pardon. Conjoint. Ben... Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que nous sommes en alliance, il dit, écoute, donne-moi accès à ton portefeuille et je te donnerai accès à mon portefeuille. Voulez-vous voir les jours heureux? Voulez-vous aimer la vie? Seigneur, prends tout. Tu as un plan pour mes sous. Parce que, encore, vous aurez toujours de quoi satisfaire vos besoins avec un superflu. Pour participer à quoi? Toute bonne œuvre. Alléluia. Ah, on pourrait dire beaucoup là-dessus, mais c'est bon, hein? Numéro 5. Restez attachés aux autres membres du corps de Christ. On parle de comment faire le bien. Restez attachés aux autres membres du corps de Christ. Pourquoi? Il faut avoir une révélation que si vous êtes dans le corps de Christ, vous êtes un membre et que votre objectif, c'est d'être attaché aux autres membres. J'ai un doigt index ici que si mon doigt index était découpé, arraché de ma main, si j'aurais laissé mon doigt à la maison, mon doigt serait pas mal inutile à la maison. Vous êtes d'accord? À moins que le restant du corps est à la maison avec. Mais le doigt à la maison, détaché du corps, ne fait pas grande chose. Savez-vous, un chrétien détaché du corps, qui reste à la maison à tous les dimanches matins, ne fait pas grand chose. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu pour le doigt est un plan global. Son plan pour le doigt est incorporé dans son plan pour la main. N'est-ce pas? On ne peut pas séparer le plan de Dieu pour le doigt d'avec le plan de Dieu pour la main. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Et c'est pourquoi moi, je suis une personne passionnée pour l'Église locale. J'ai une passion pour Jésus, mais j'ai une passion pour l'Église locale parce que si je suis détaché du corps, si je ne suis pas avec les autres membres du corps, je suis inutile et je ne peux pas faire grand-chose. Moi, je crois que Dieu m'a donné une onction pour être pasteur. Il m'a donné une onction pour prêcher et enseigner la parole de Dieu. Mais imaginez, si ce matin, tout le monde est venu à l'église, et moi, je prêche dans ma chambre. Hein? Je prends une chaise vide et, bon, là, je vais prêcher, je vais enseigner la parole de Dieu avec passion! Est-ce que ça donnerait grande chose? Est-ce que le résultat de ça, vous ne serez pas édifiés? Et moi, je me sentirais un peu bizarre. Mais, et tout le monde comprend ça quand on parle du pasteur, c'est ça. Mais savez-vous, c'est exactement la même chose pour vous. Vous restez à la maison. Oh, mais moi, je veux juste prier. Je veux juste avoir un temps, juste avec moi, le Seigneur. Fais ça, moi aussi, je fais ça. Les temps individuels avec le Seigneur, c'est important. Mais les temps collectifs avec le Seigneur, c'est important aussi, n'est-ce pas? Parce que si vous restez détaché du corps, vous allez vous sentir un peu bizarre et nous ne serons pas édifiés. Amen? Je ne suis pas plus important que vous. Vous êtes aussi important que moi. Amen? Donc, restez attachés aux membres du Christ, du corps de Christ. Hébreux 10, 24 dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et à quoi? Et aux bonnes œuvres. » Et tout de suite après, N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On voit ici que si on veut être heureux dans la vie, il faut s'éloigner du mal et faire des bonnes choses. Mais je ne peux pas accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour moi avant la fondation du monde si je ne le fais pas en collaboration avec le corps de Christ. Je suis dans l'impossibilité de faire mes bonnes œuvres sans vous. Et vous êtes dans l'impossibilité. Il est impossible pour vous de faire les bonnes œuvres. Vous pouvez faire quelques bonnes choses, mais pas vos bonnes œuvres. Les choses que Dieu a destinées pour vous avant la fondation du monde, vous ne pouvez pas le faire sans nous. Amen? Est-ce que vous êtes là? Je sais que vous êtes là. C'est juste pour vous agacer un peu. Numéro 6. Sixième chose. Persévérez en fait bien, sachant que Dieu vous rémunérera. C'est Dieu qui va donner la rémunération. Et en fait, Galates 6, 9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. C'est bon, n'est-ce pas? Vous savez que ça prend une persévérance. Pourquoi est-ce que la Bible dit de ne pas lâcher? C'est parce que nous avons une tendance de lâcher. Des fois, nous avons une tendance à être tannés de faire le bien. La tendance humaine, c'est d'être tanné. Bon, mais ça fait déjà une semaine que je fais le bien, ou ça fait déjà un décennaire que je fais le bien, ça fait déjà 20 ans que je fais le bien, et là, c'est le temps pour moi. Il faut que je pense à moi-même aussi, n'est-ce pas? Oui, pensez à vous-même. Pensez à vous-même en faisant le bien, parce que ça va... Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen? Vous savez de quoi je parle, hein? Mais on a une tendance, des fois, à être tanné et fatigué. Mais l'exhortation ici, c'est garder vos yeux sur la rémunération. C'est Dieu qui va nous aider à moissonner au temps convenable. Si vous ne lâchez pas, vous allez avoir la moisson. Et toutes les bonnes choses, sachez que votre travail n'est pas en vain. Dieu voit à chaque fois qu'on fait le bien, à chaque fois qu'on s'applique à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, Dieu le voit. À tous les jours, quand on se présente devant Dieu en disant, « Seigneur, je t'appartiens. C'est ton temple, c'est ton trésor, c'est ton temps, c'est tes talents, Seigneur. Prends-moi, utilise-moi pour ta gloire. » Et à chaque fois que je me mets à l'œuvre, en faisant les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi avant la fondation du monde, Dieu prend note de cela. Et ces bonnes œuvres sont fructueuses, ces bonnes œuvres sont efficaces, ces bonnes œuvres ne sont pas en vain. Même si on ne voit pas les résultats tout de suite. Alléluia. Ça va bientôt faire 12 ans qu'on est ici à la vie comblée. Et laisse-moi vous dire, pour les premiers 4 ans, 5 ans, il y a plein de choses. On commence à avoir des choses maintenant que le Seigneur nous a montrées il y a même 16 ans ou 18 ans. Parce qu'il y a des choses qu'on savait dans notre cœur. Le Seigneur nous a donné une vision pour certaines choses dans le ministère longtemps avant qu'on est arrivé même. Et on commence à peine à voir ces choses. Mais une chance qu'on n'a pas lâché, n'est-ce pas? Lâchez pas. Continuez à faire le bien. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver le bonheur. C'est comme ça que vous allez voir les jours heureux et aimer la vie. Amen. Alléluia. Donc, on va se lever debout. On va prier ce matin. Si Jean-Charles peut venir. C'est juste une bonne exhortation ce matin, n'est-ce pas? De faire le bien. Je vous encourage, je vous ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets ce matin. Même peut-être un peu plus que normal. Mais je vous encourage à prendre cela pendant toute la semaine, de méditer ces versets et de demander au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous montrer comment mettre cela en pratique. acceptez la responsabilité de faire le bien. Grandissez dans votre connaissance de Dieu. Suivez l'exemple de Jésus. Utilisez toutes vos ressources pour la gloire de Dieu. Restez attachés aux membres du corps de Christ et persévérez en faisant le bien, sachant que c'est Dieu qui va vous rémunérer. Père, merci. Merci que ce matin, nous avons eu le privilège d'étudier ta parole, Seigneur, dans la paix, dans un pays où nous avons la liberté, Seigneur, pour s'assembler. On ne prend pas ça pour acquis, mais nous sommes reconnaissants. Donc, Père, au nom de Jésus, nous te remercions que nous sommes ton ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Que notre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Pas n'importe quelles bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres spécifiques que, tu nous as confiées, Seigneur. Au nom de Jésus. Juste avant de chanter ce chant, j'aimerais donner une invitation, avec tous les yeux fermés. À tous les dimanches matins, sans exception, je donne une invitation. Si vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, vous n'avez jamais confessé avec ta bouche le Seigneur Jésus, cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, aujourd'hui, j'aimerais te donner l'occasion de le faire. Jésus a dit que si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Sache que Dieu t'aime, il est pour toi, il a un plan merveilleux pour ta vie. Et en fait, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, avec tous les yeux fermés, que dans ton cœur, tu sais que si tu trouverais la mort aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas prêt à rencontrer ton Dieu. S'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus, juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À chaque dimanche, on donne cette occasion. Et à presque chaque dimanche, il y a quelqu'un qui répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus? Juste lever la main. Alléluia. Merci Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un... Ce matin, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ressens dans ton cœur le besoin, comme Jésus fut revêtu de la puissance d'en haut et ensuite il était oint du Saint-Esprit de force et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous aussi, vous reconnaissez votre besoin aujourd'hui d'être revêtu de cette même puissance d'en haut. De recevoir qu'est-ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli de l'Esprit Saint, comme ils étaient remplis en Actes 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues et de glorifier Dieu. C'est un don qui appartient à chaque personne qui est née de nouveau. Si c'est une chose qui vous intéresse, on a des personnes ici qui sont formées pour prier avec vous, les préposer à l'autel. Je vais vous donner l'occasion de juste venir en avant et un préposé va vous rejoindre et on va prier pour vous pour recevoir ce don merveilleux. Si vous avez besoin de cela aujourd'hui, je vous invite juste à lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela aujourd'hui? Levez la main. Alléluia. Sinon, on va chanter ce chant, Lumière du monde, et en sachant que nous sommes aussi, parce que nous sommes en Jésus-Christ, la lumière du monde. On va chanter ça une fois, après ça, vous êtes libre de partir. Et n'oubliez pas, ce soir, à 6h30, puissance verticale, mercredi soir, 19h. Et n'oubliez pas non plus le bulletin téléphonique. Le Seigneur est bon. Nous vous aimons. Le Seigneur a commencé une bonne œuvre en nous et c'est lui qui va rendre cette œuvre parfaite au nom de Jésus. Amen. Donc chantons. Merci.